Et voilà, on arrive au bord de la mer. C'est absolument merveilleux, il fait un temps superbe. On pourrait se baigner, ou presque, presque, parce que ici c'est Gaza. Ouais, c'est Gaza. Gaza, oui, la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Et vous savez que la plus grande prison à ciel ouvert du monde va s'agrandir. C'est la grande nouvelle, vous la connaissez. Vous savez comment, par amour pour ses amis palestiniens, Ariel Sharon a décidé de demander gentiment aux gentils colons qui sont installés là, sur la bande de Gaza, de partir et de laisser la place. Et ainsi, les Palestiniens auront plein de place et pourront éventuellement, pourquoi pas, faire venir leurs amis. C'est ce que nous allons vérifier. On va voir si nos informations sont bonnes, si on a tout bien compris. On continue donc ce reportage à... Donc là, ça va être Gaza. On vient de Jérusalem. Ce matin, on a rencontré un garçon formidable qui, avec des amis, a créé une petite association qui s'appelle Breaking the Silence. Rompre le silence, ce sont des jeunes qui ont fait leur service militaire dans l'armée occupante et qui racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Pas tellement des choses extraordinairement horribles, au contraire, une sorte de banalité du mal et ce qu'ils appellent une corruption morale, en disant, voilà, il faut savoir ce que nous avons fait, ce que nous avons dû faire, ce que nous avons cru faire, et voilà ce que ça coûte, si vous voulez, que nous continuons cette politique d'occupation des territoires. Aujourd'hui, dans la basse Gisue, on va ouvrir le grand beau livre sonore de cette émission modeste et géniale, à la page du Gange, en Inde, Bénarès. Un moment qui nous a tous laissé un souvenir très très fort. J'espère que vous allez le partager à nouveau avec nous. Auparavant, des messages sur le répondeur de la basse où j'y suis, dont un message très spécial d'un de nos envoyés très spéciaux en Indonésie, à Aceh. En Indonésie, vous le reconnaîtrez parmi les auditeurs qui ont laissé des messages au 01 56 40 37 37.
Allô, salut à tous. Eh bien, voyez, j'ai trouvé ce que voulait dire CFDT. Ça veut dire comment faire des turlutes. Salut à tous.
Allez, les syndicats, les grandes centrales, là, reculez encore un peu, annulez la grève du 10 mars, ça leur fera plaisir. Vous avez déjà baissé culottes pour le lundi des Pentecôtes, ou alors là, chapeau, on va travailler pour que dalle. Allez-y, une petite reculade de plus ou de moins. Allez, continuez comme ça, on avance. Au revoir, c'est Jacqueline.
Je viens d'apprendre une nouvelle assez scandalisante, comme quoi le 10 mars, il y a les personnes du CIO qui viennent visiter Paris, puis bien sûr les syndicats nous font chier et vont faire une grève dans les rues de Paris. Pourtant, je suis pas contre les syndicats. Je trouve que leur lutte est tout à fait nécessaire et à encourager dans certains cas. Parfois, je me dis même heureusement qu'ils sont là, mais dans ces moments-là, alors qu'on sait très bien tous que les Jeux Olympiques vont pouvoir fournir un certain nombre de milliers de boulots, de jobs, de travail, qu'il va y avoir une grande dynamique qui va se créer autour des Jeux Olympiques, le 10 mars, au moment où les personnes du CIO viennent, il va y avoir une grève monstrueuse et les mecs n'en ont rien à foutre et ne pensent qu'à leur petit confort. Voilà, et ça, je trouve ça mais trop scandaleux et trop grave, quoi. C'est tout. Merci beaucoup. À bientôt.
Là, je vois ce soir vos informations. On nous dit que le jour où les membres du CIO vont visiter notre bonne ville de Paris, les syndicats vont en profiter pour descendre dans la rue. Eh oui, c'est vrai. Ben, c'est peut-être regrettable pour l'image de la France, mais de notre côté, à force de cacher des problèmes, à force de vouloir étouffer des revendications, à force de pas vouloir regarder les choses en face, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on récolte le fruit de son travail. Malheureusement, il faut en arriver à une extrême telle que celle-ci, parce que je suis sûr que les gens qui vont manifester aimeraient voir les Jeux se dérouler à Paris en 2012. Simplement, voilà, il faut malheureusement taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau du fric et du pognon, pour que les gens réagissent, pour que le MEDEF réagisse, pour que l'ensemble des gens réagissent. Donc voilà, ben, solution extrême pour problème extrême. À partir du moment où on n'écoute pas les gens et où on ne veut pas gouverner avec la rue, pour reprendre notre cher Premier ministre, eh bien il faut s'attendre à ce genre d'action-là.
Écoutez, moi je dirais simplement aux syndicats, le 10 mars, faites grève, foutez le bordel, bloquez les gens du CIO, parce que les Jeux Olympiques, j'en ai rien à foutre, mais alors vraiment, mais rien à foutre du tout. Et entre des intérêts financiers, dont j'ai strictement rien à cirer, qui n'auront strictement aucune incidence sur notre pouvoir d'achat, et d'autre part, la liberté de manifester, eh bien, il n'y a pas à hésiter, il faut bloquer les gens du CIO et surtout qu'ils ne puissent pas se déplacer dans Paris. Faites grève et empêchez ces connards de nous emmerder avec des jeux dont on n'a rien à foutre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À plus tard.
Monsieur Mernet, votre terme utilisé hier, utilisé aujourd'hui sur France Inter, de barbac pour McDo est assez méprisant pour tous les jeunes qui, n'ayant pas vos moyens financiers pour s'offrir un filet de bœuf, sont contents de se retrouver autour de hamburgers qu'ils trouvent plutôt bons. Au revoir.
On est sensible à l'émission sur les paysans sans terre et il se trouve qu'on est à Rouen et à Darnétal et qu'il existe des paysans sans terre dans notre région normande. On se bat depuis plusieurs années pour récupérer des terres maraîchères qui sont à une entrée de ville et qui vont être saccagées par un centre commercial. Actuellement, on occupe une des dernières maisons maraîchères avec la Confédération Paysanne et l'Association de Protection du Site Naturel de Repinville pour obtenir de la ville de Darnétal et de la ville de Rouen que de nouveaux maraîchers s'installent. Pour maintenir une tradition, parce qu'avant il y avait 40 marchés, il n'y en a plus que un. Rendez-vous tous les après-midi sur le site au pied de la tour de Carville, 1 impasse des Marais, à Darnétal, pour soutenir, pour adhérer et pour obtenir gain de cause. Nous ne sommes que des paysans sans terre, c'est terrible. À bientôt.
Daniel, je t'appelle de La Ferté-Massé dans l'Orne, petite ville de 7000 habitants en Normandie, habituellement connu pour sa spécialité de tripes en brochette. Je te les conseille, c'est délicieux le matin sur le coup de 9h. Malheureusement, actuellement, nous nous faisons remarquer par le projet de fermeture de notre hôpital en 2007, très à la mode en ce moment. En plus, cas unique en France, le maire de la commune soutient ce projet. Il vient même de faire fermer le service maternité pour des motifs de sécurité, loin d'être justifié, refusant systématiquement de dialoguer avec la population. Après de nombreuses manifestations, nous allons procéder à une opération La Ferté-Massé, ville morte. Le samedi 26 février, toute la journée à partir de 10h30, nous organiserons différentes manifestations, dont une où nous nous coucherons sur la place principale, la place de l'église à La Ferté-Massé, et nous avons le soutien des commerçants. Alors, nous vous attendons tous, très nombreux, pour défendre notre service public. C'était Christian de La Ferté-Massé.
Oui, allô, ici José Bouvet, toujours en direct d'Indonésie. Voilà, comme promis, un retour sur notre semaine en Indonésie, et plus particulièrement dans la province d'Aceh, là où le tsunami a fait le plus de dégâts. Donc un événement important s'est passé cette semaine, qui jusqu'à présent n'a pas eu beaucoup d'écho malheureusement. C'est la rencontre qu'il y a eu entre toutes les organisations paysannes et de pêcheurs à l'initiative de Via Campesina, des organisations de paysans donc et de pêcheurs d'Indonésie, de Thaïlande, du Sri Lanka, d'Inde. Et donc toutes ces organisations, toutes les victimes se sont retrouvés pour discuter et pour voir comment réagir après ces dégâts. Donc les conséquences évidemment sont catastrophiques, sont dramatiques, puisqu'on a plus de 200 000 victimes. Mais ceux qui sont encore vivants, les survivants de cette tragédie, eh bien sont dans une situation tout à fait alarmante, puisque si on ne prend que par exemple la seule région d'Aceh, donc au nord de l'Indonésie, eh bien, il y a plus de 40 000 hectares de terres agricoles, de rizières qui ont été submergées par la mer et donc qui sont aujourd'hui transformées presque en dépôts de sel. Donc, se pose la question comment ces paysans vont pouvoir survivre. Et aussi, on a vu et on a pu constater la façon dont toutes les communautés de pêcheurs ont eu leur village anéanti et leurs barques détruites. Donc là encore, ce sont des dizaines de milliers de familles qui se retrouvent dépourvues de tout. Alors, bien sûr, après l'apitoiement, après le fait que tout le monde se soit solidarisé, la question c'est qu'est-ce qui va se passer et comment vont réagir les autorités internationales. Et là, déjà, certaines craintes apparaissent. Et on l'a déjà vu avec la volonté, par exemple, d'apporter un soutien alimentaire à ces populations en important en Indonésie du riz, par exemple, alors que l'Indonésie est plus qu'autosuffisante en riz et l'ONU, avec les institutions internationales et la Banque mondiale particulièrement, fait pression pour que l'Indonésie ouvre ses frontières aux importations de riz. Alors c'est quelque chose évidemment que l'Indonésie refuse, que les organisations paysannes refusent, et nous avons, avec toutes les organisations de ces différents pays et le ministre de l'Agriculture indonésienne, moissonné un champ de riz pendant que Bush et Clinton étaient en train de visiter les dégâts. Le ministre de l'Agriculture indonésien n'avait pas, lui, le droit d'assister à la tournée de Clinton et de Bush père, voilà. Donc on pourra revenir là-dessus un peu plus longuement très bientôt. En tout cas, bonne chance à vous et moi j'espère être rentré dans les frimas français, j'espère dans 24 heures. Voilà, à très bientôt et en tout cas je crois qu'il faut continuer à réfléchir sur ce genre de catastrophe car comme le remarquaient les Indiens, si on prend la carte des catastrophes, très curieusement, elle se superpose avec la carte de la pauvreté, et la pauvreté n'est pas une fatalité de la nature, mais bien les conséquences d'une logique économique. Salut et à très bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier. Là-bas, si j'y suis, quelques Indes. Aujourd'hui, Benares.
Flight number 2, arriving from New York.
Qu'est-ce que vous avez vu, les enfants?
Hamlog, bahut sare haddi mahsoos dekhe. Wo haddi dekha rahe the.
Haddi. Je montre l'os que le chien mange.
Il y a un chien qui est en train de manger les os et la chair d'un cadavre. Où ça?
Juste à côté de nous, tout près de nous. Regardez en bas.
Qu'est-ce qu'il mange, ce chien? Il est en train de manger les os d'un mort. Et je crois que c'est... Oh. Apparemment, il mange un bout de colonne vertébrale.
Quitter Calcutta, pas prêt d'oublier ce pourrissement, ce cadavre, pas exquis, tellement grouillant, tellement d'existence, si violente, si cruelle, si agrippée, qu'on sait qu'on reviendra. Cadavre attachant, comme les yeux du bébé mort dans les bras de la mendiante sans main. Image forte? Non, ça existe. Au pays des images, les mendiants en Inde font des images plus fortes que les maharajas. Quelques étrons, plus tard, quelques molars sanglants, une vache, un sikh en turban rose, quelques sadou safran, un pneu de camion sur une tête, 10 sacs de thé, des bataillons de porteurs en loques orange et turban, 5 valises sur la tête, Des centaines de corps dans la gare de Calcutta, endormis comme morts par terre, par grappes, blottis, serrés dans des sphères de poussière. Et je n'ai pas réussi à comprendre ce qui peut retenir un être humain à Calcutta. Tirez-vous, faites comme nous, prenez le train. Non, au lieu de ça, ils arrivent de plus en plus nombreux. Parce qu'ailleurs, c'est pire, me dit le sikh enrubanné. Je vous crois pas, c'est pas possible. Et vous me dites que ça va mieux depuis quelques années. Calcutta, welcome to the investisseur, cette villa de l'avenir. Goodbye, have a good journey. On va prendre le train, prendre littéralement, comme on fait en Inde à l'assaut. On monte dedans, on monte dessus. L'Inde est une foule folle, cri, marchand, ambulant, thé, café, eau, soda, bonbons, glace, cireur, oreiller, journaux, bananes, jouets, 10 vendeurs pour chaque chose. Mais le bordel est beaucoup plus organisé qu'on le suppose. Hiérarchie oblige, ordre de l'univers. Si vous souffrez dans cette vie, tant mieux. La prochaine sera vachement mieux. Votre vie est un enfer, la prochaine sera un petit paradis. Et celle d'après, encore plus chouette. Peut-être, peut-être. On ne peut pas vous dire ça, ça dépend de Dieu et de votre bonne conduite. Mais encore un effort, encore quelques vies, et puis fini, fondu, heureux, bien heureux, nirvana. On viendra à Calcutta comme on a envie de retourner au fond d'une mine où on a vu des types en train d'en baver et qui n'en ont rien à foutre de vos mots éplorés et de votre compassion réelle, sans doute, mais provisoire, comme une petite diarrhée, une tourista. On reviendra à Calcutta comme on va revoir le Paris-Roubaix. Pour la beauté du quand même, pour la beauté du geste de vivre, et aussi la fleur du mal. Pression, Calcutta, oppression, mais ébullition, invention de vie. On invente ici, on vit. Après tout, aucun mérite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, mourir et quitter Calcutta. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va mourir. La mort dans l'Inde, Ganga, la Gange, Bénarès. Le train suit une nuit de suie, chaos industriel, usine, cheminée en loques soviétiques, entrepôt géant, géante l'Inde, pont retentissant, gare qui grelotte et s'envole, Calcutta, Chandernagore, Bodh Gaya, Bénarès. Au bout de ce train de nuit, dans la courbe que fait la fleuve sacrée, en forme du croissant de lune qui orne la chevelure de Shiva, à Bénarès, Varanasi. C'est là qu'on va, la ville sacrée de l'Inde, comme on dit dans les documentaires depuis qu'on est petit. Yeah. drôle parce qu'on est à Bénarès, c'est un tout petit studio de photographe. Alors derrière moi, il y a un décor, il y a des toiles peintes qui représentent des jardins, des décors différents, il y a des colonnes à gauche et à droite, les murs sont peints en rose, il y a un néon là-bas au bout, il y a des gamelles, des projecteurs, et puis en face de moi, il y a le photographe, il a une tête de mort, ce type absolument sinistre, quoi, c'est vraiment la mort comme dans les histoires, il est très très gentil, il accepte de nous parler de son métier de photographe et de photographe des morts, c'est-à-dire qu'à Bénarès, avant la crémation, on a pour coutume de faire photographier le défunt.
Premchand Bhagat.
Je m'appelle Premchand Bhagat.
Et alors, vous faites des photos des défunts. Alors comment ça se passe? Racontez-nous comment ça se passe.
Kaise hota hai un log ko bataiye zara.
Ghar mein jo gaye uska mare mane marne ke baad uska jo rehta hai ghar chain. Aapka bulata hai yahan dukaan par aake.
Celui qui est décédé, sa famille nous appelle. Et j'y vais.
Mais est-ce qu'on on lui fait un beau visage, on le peint
Au ghi, desi ghi. Ye sab laga ke usko pani se nahalata hai.
Oui, le visage est décoré.
Mm-hmm.
Et après, je prends la photo.
Et alors, on fait des photos dans la maison?
Bah oui, un ghar ke andar bhi.
Dans la maison et à l'extérieur aussi.
Ah, dans la rue?
La somme, oui.
Parfois, on prend la photo de procession.
Alors, c'est des photos en noir et blanc ou en couleur? Qu'est-ce que les familles préfèrent en général?
Couleur.
En couleur, toujours.
Ah, parce que c'est plus vivant, la couleur? Mais ça ne vous rend pas un peu triste de faire un métier pareil, des fois? C'est pas un peu triste?
Il y a tout business.
C'est mon métier. Je gagne l'argent. Hein.
Et vous, à votre mort, qui est-ce qui vous prendra en photo? Vous avez un collègue? Vous avez des enfants?
Mon fils.
Bon, allez-y, vous faites ma photo, là. Voilà. Je me suis mis avec mon casque de reporter, mon micro de reporter, mon magnétophone de reporter, les projecteurs, branche.
Ouf!
Est-ce que vous me faites jusque-là ou juste le haut? Ça va la coiffure? Les photos sont prêtes dans 2 jours. C'est fait?
C'est
fait. Voilà, ben voilà photographié. À Bénarès, au lever du jour, il y a beaucoup plus de différence entre la nuit et le jour qu'entre le profane et le sacré. Malgré tout ce qu'on vous a dit, malgré tout ce que vous avez déjà vu, rien n'est plus serein qu'une balade en barque au lever du jour dans cette ville, dans le pas encore, avant le tumulte et avant la poussière. Balade sur le Gange, Ganga, la Gange, c'est-à-dire le ciel sur la terre. Se baigner dans le Gange, c'est se baigner dans le ciel au moment où il commence, c'est-à-dire au point du jour. Le ciel est descendu ici-bas grâce à Shiva pour féconder la terre. Oh, on n'est pas très étonné de ça, que ce soit considéré comme un miracle dans des endroits, c'est naturel et surnaturel à la fois, dans des endroits bien sûr où on redoute la sécheresse. Mais le ciel est tombé sur la terre sous la forme du Gange, grâce à Shiva et grâce à la mèche de Shiva, aussi pour purifier les hommes et féconder leur vie et leur mort, et permettre aussi à pas mal de charlatans d'abuser de la crédulité des dévots. Mais c'est pareil partout, sur tous les lieux de culte de notre monde. Et depuis que notre monde est monde, il y a les dévots et les charlatans, sans qu'on puisse faire la différence entre le profane et le sacré, alors qu'on peut faire tout à fait la différence entre la nuit et le jour. Et c'est à ce miracle qu'on est en train d'assister. Et le premier geste, et le plus antique, et le plus beau, consiste à poser sur l'eau un petit radeau de feuilles, un minuscule radeau de feuilles séchées, avec une bougie minuscule d'huile, et une lumière qui part comme ça sur le Gange, jusqu'à ce que la lumière rejoigne à l'infini l'eau. Mille fois vous avez vu ce théâtre des temples, ce théâtre des quais, des ghats de Bénarès. Mille fois vous avez vu les pandites gras sous leurs ombrelles de paille percée. Mille fois vous avez vu, au lever du jour, les dévots, les pèlerins, les gens venir faire leurs ablutions compliquées, leur rituel. Mais cette fois, c'est à notre tour, et cette fois, à nouveau, c'est tout neuf. On est dans un chromo, on est dans une peinture du Lorrain, on est sur cette barque, avec ce batelier, de la caste des bateliers. Et l'instant béni arrive. Le moment où sur l'autre rive, cette rive qui n'est pas habitée, aucune habitation, soudain, le rond rouge du soleil apparaît et ce batelier est absolument irradié de bonheur, de béatitude. Il fait le signe avec les paumes jointes en direction du soleil. On fait comme lui. On s'aperçoit que tous ceux qui sont au bord de l'eau, sur les gâtes, ont tous le même geste en même temps. La veille, en arrivant à l'hôtel, j'ai donné mes vêtements à laver à la laundry. Et là, ce que je vois là, ce que vous entendez, ce sont les dobies. Les dobies, ce sont les gens qui font la lessive, qui frappent le linge sur des pierres en criant comme ça pour rythmer leurs efforts. C'est leur rôle, c'est leur caste, c'est leur karma, c'est leur damnation. Et il est bien possible que certains, il y a un gars là-dedans qui est en train de laver ma chemise, mon jean et mes chaussettes.
Voilà, vous voyez des tas de bois.
Des tas de bois.
Voilà, vous voyez la fumée.
Ah oui, c'est la sur ce bord, il y a un homme avec un bambou assez long. Il est en train de retourner quelque chose qui est dans les flammes, un corps. Juste à côté, en contrebas, une vache qui regarde tout à fait indifférente. Autour, on va, on vient, absolument. C'est une scène tout à fait banale, on dirait. Voilà. Crémation, on sait, tout le monde sait, depuis des siècles, quel est le rituel de la mort en Inde. Et là, on est venu avec notre bateau face au ghat, c'est-à-dire face au quai de Manikarnika, qui est le ghat où jour et nuit, le feu est entretenu sous les bûchers où, de jour comme de nuit, on brûle les corps. 150, 200, 250 corps sont brûlés ainsi et libérant l'âme qui ensuite ira rejoindre peut-être le dieu où se trouvera à nouveau prisonnière d'un corps dans une autre vie. C'est à ce rituel funéraire qu'on a voulu assister depuis cet endroit. Les images, vous le savez, sont interdites, évidemment, interdites de photos, interdites de filmer, et on le comprend, c'est rituel, mais pas interdit d'observer, de regarder avec notre amie Vanita, qui est une habitante de Benares. Alors, sur les marches qui descendent sur le fleuve, un brancard de bambou incliné, posé sur les marches, et sur le brancard, enveloppé d'un tissu blanc, il y a un corps qui attend, un peu plus haut un autre, recouvert de tissu orange et très doré, très brillant. Des hommes autour, des personnes disposées sur les marches. Il y a deux corps qui attendent là.
Oui, il y a un qu'on a déjà plongé dans la gorge. Vous voyez l'eau qui sort. Et l'autre, on ne l'a pas encore plongé dans la gorge. Et puis il y a des tas de cendres aussi. Parce que ce sont les cendres des morts. On a ramassé comme ça.
Ce tas de cendres là, c'est des cendres des morts. Là-bas, là, il y a un autre bûcher, c'est pareil. C'est un mort qu'on est en train de...
Qu'on est en train de brûler. Et le moment, quand le corps se brûle, on fait kapal kriya. C'est la personne qui l'a brûlé, qui a mis le feu au bûcher. Cette personne-là va craquer, ou abîmer, vous pouvez dire, le crâne du mort.
Il va, c'est ce qu'il est en train de faire là, sous nos yeux. Voilà, ce qui reste du corps est au bout de son bambou. Il va fracasser le crâne.
Le crâne. Sans cela, la cérémonie ne serait pas complète.
Et kapal kriya, parce que l'âme est à l'intérieur du crâne.
Ah oui, c'est ça.
Et il faut, pour qu'elle puisse sortir, que le crâne soit cassé, ouvert. C'est pour libérer l'âme qui est dans le crâne. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, ce temple, ces tas de bois, de brindilles, de bûches plus ou moins importantes, la suie, la cendre qui peut recouvrir tout ce décor, ce paysage, ce ghat, c'est des cendres, des bois et des cendres des morts.
Dans une maison, quand il y a un mort, ce qu'on fait au début, si il est mort sur le lit, donc dans ce cas-là, on jette le matelas et tout cela dehors. Mm-hmm. Et on met la mort sur la terre. Et à ce moment-là, on met des gouttes de l'eau du Gange dans sa bouche mm-hmm. avec des feuilles de basilic. Et on enlève ses vêtements. Mm-hmm. Si c'est une dame, maintenant ce sont les femmes de la famille qui s'en occupent. Mm-hmm. Ils lavent le corps. Et il l'habille dans les vêtements très riches. Mmh. Si c'est une femme mariée, on l'habille comme une nouvelle mariée, avec les bijoux, le rouge, le tika sur le front.
Du rouge sur la raie centrale,
les
cheveux.
Oui. Et puis du rouge sur les pieds aussi. Mmh. Et puis si c'est une vieille, très vieille dame, donc on met dans ses deux mains des ladous. Ça veut dire une salle de bonbons dans ses deux mains et une dans sa bouche aussi. Mmh. Et puis, on met aussi des kafans.
Kafans, c'est-à-dire le tissu du linceul.
Bariolé et puis qui multicolore et qui très riche. Les femmes, elles s'occupent du mort. Et les hommes de la famille, ils vont acheter des bambous mmh. pour la civière. Donc, on fabrique ça, on attache le mort sur cette civière-là. Et puis, il y a tous les gens du quartier se rassemblent. Et puis, pendant le trajet, ce sont surtout les fils, quatre fils qui portent les quatre bouts de la civière à l'endroit de la crémation. Et toute la procession crie en haute voix, Ram Nam Satya. Ça veut dire le nom de Rama est vrai et tout est faux. C'est seul le nom de Dieu, le Dieu qui est vrai.
Et tout le reste est faux, tout le reste n'est qu'apparence.
Oui, c'est ça.
Ah, là, on amène un autre corps, voilà. En démarche, les hommes portent un corps recouvert de tissus dorés, de fleurs oranges. Voilà, on plonge le corps sur le brancard dans le Gange et maintenant on le remonte.
On remonte et voilà, on le pose là.
On le pose là au soleil.
Au soleil. Et maintenant on part, vous voyez. On part pour acheter la bois et tout ça.
Ce qui est très touchant, c'est les oiseaux, les moineaux qui se posent sur ces corps, sur ces morts. D'or, sur les morts d'or. Vraiment, c'est ça, parce que c'est une traîne, un linceul doré de tissu d'or, comme ça, qui brille au soleil. Voilà, on en ramène un autre.
Remarquez la personne à la tête rasée. C'est
oui.
lui qui va occuper de toute la cérémonie maintenant. C'est lui qui va mettre le feu.
Le garçon est en train d'enlever ses vêtements, il est torse nu. On jette les fleurs oranges sur la Gange, guirlande de fleurs comme ça qui flotte doucement près d'un chien qui cherche dans l'eau. Voilà, maintenant on amène ce corps recouvert de fleurs d'or dans ce linceul orange. On l'amène sur un bûcher.
Les femmes de la famille ne viennent jamais avec le corps.
Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune femme. Aucune femme.
Aucune femme. Les femmes restent dans la maison. Et dès qu'on enlève la mort de la maison, elles commencent à nettoyer, laver la maison. Et on jette les vêtements du défunt dehors. Mmh. On prend un pot en terre, plein d'eau.
Pot de terre, plein d'eau.
Plein d'eau. Et on le jette dehors. Afin qu'il s'abîme.
Ah, Ah, pour le casser dehors.
Pour le casser dehors. Oh. Ça représente qu'une personne est partie de cette maison. Et pour cette personne-là, il ne faut pas revenir.
Ah.
Voilà, un autre qui arrive.
C'est ça, le feu ne s'arrête jamais.
Ne s'arrête jamais. On amène même pendant la nuit. On apporte même le corps pendant la nuit aussi, une heure ou deux heures du matin.
Voilà, sur les marches, il y a ces hommes, uniquement des hommes, qui regardent la barque partir. Et s'éloigne sur le Gange maintenant ce bateau avec 7-8 hommes à bord. Au bout du bateau, au bout de la barque, il y a le corps qui est posé et qui est dans ces tissus d'or, tissus dorés et de fleurs. Ça brille au soleil sur le Gange. Et le corps a été lesté de pierre parce que c'est un malade.
C'est un malade.
Donc on le brûle pas.
On le brûle pas et on le planche dans la Gange.
C'est extraordinaire cette barque qui s'éloigne seule, qui est à peu près au milieu du fleuve maintenant. Les hommes se lèvent dans la barque et voilà, jette le corps dans le fleuve. J'aperçois très loin sur l'autre rive une seule chose vivante. C'est un chien. Et le corps a coulé à pic au milieu du fleuve. Et doucement, sans autre forme de rituel, le bateau revient sur le bord. Ainsi, le Gange, le fleuve sacré, la mère, la maman, est un fabuleux cimetière. Et en aval de Bénarès, ces corps qui sont lestés finissent par remonter et on voit au ras de l'eau des vautours, immenses vautours qui font le travail que le feu n'a pas fait. Il y a un des cadavres qui est enroulé d'un tissu rouge, carmin comme ça. C'est une femme ?
C'est une femme et peut-être c'est une femme très jeune. Et pour les hommes, c'est toujours blanc.
Alors, sur les marches en bas, près de l'eau, il y a un corps qui commence à brûler.
Oui.
Alors, on prépare un bûcher. Gros bois, petit bois, tas de bois.
Vous voyez, comme ça, nous apprenons à vivre avec la mort. D'accord. On n'a pas peur de la mort, comme...
Comme nous. Comme les Français, par exemple, oui, que vous connaissez.
Oui, c'est ça. Pour nous, vraiment, c'est une chose naturelle qui se passe tous les jours.
Là, le bûcher est prêt, au bord du fleuve. Et on amène le brancard avec le défunt dans ses voiles et ses tissus orange et doré. Le corps lui-même est enveloppé dans un tissu blanc. Il y a une femme qui est descendue auprès des marches, là.
Elle lave la figure. Même elle boit l'eau du Gange. De cet endroit-ci, 4 fois, elle l'a fait, 5 fois. Elle la met sur la tête. Son action dit qu'elle est venue avec un mort.
Chaque geste est sacré, hein? Chaque geste.
Oui, chaque geste, parce que la manière, elle a jeté l'eau. Elle a pris de l'eau et elle l'a jeté juste derrière sa tête, comme ça. Donc, c'est pas un geste ordinaire.
Voilà, là, les hommes ont enlevé les...
On a enlevé tout.
Et on dispose le corps sur les... sur le bûcher.
Avant de brûler un corps, il faut payer de l'argent. Sinon, vous ne pouvez pas le brûler. Il faut payer l'argent à l'homme, l'impôt, c'est l'impôt, la taxe de Shemshan.
Le fils qui s'est rasé le crâne, qui s'est baigné dans le Gange, vient maintenant avec son vêtement spécial qu'il a revêtu, un vêtement sans couture. Il apporte des branches qui sont enflammées. Il fait le tour plusieurs fois, le tour du bûcher sur lequel se trouve le corps. Et voilà. Mais le feu, c'est quand même le moment solennel, quoi. C'est le grand moment. Voilà. Voilà, le bûcher est allumé. On pose des branches, du bois, sur le corps.
Il fait photo. Tu te
crois? Oui. Il y a un photographe.
Et peut-être on a des.
C'est quelqu'un de la famille. On va dégager la figure du mort pour permettre la photo. C'est-à-dire qu'on soulève le linceul pour photographier le visage du mort.
Si c'est une personne plus âgée, on touche le pied du mort pour montrer le respect.
Le garçon qui a mis le feu est remonté en haut là-bas. Oui. Il est en haut des escaliers.
Oui, et il doit attendre là. Avec tout le monde, il sera là jusqu'à la fin.
Il va où?
Il monte plus haut.
Voilà, là-bas, photo, les hommes de la famille posent près du bûcher avant qu'on allume le feu. On voit très nettement le corps dans le linceul, mince linceul sur ce corps. Voilà, et toute la famille pose près du bûcher, les hommes uniquement. Alors inexorable, irrémédiable, et quand même assez terrible les images. À quelques mètres, un bûcher qui flambe du bois au-dessus et au-dessous du corps. Et maintenant, le linceul qui entoure le corps a brûlé. Et c'est les pieds que nous voyons, c'est les pieds du mort qui sont atteints par les flammes.
Et il n'a pas acheté un bûcher de santal, mais il a mis du poudre de santal dans un paquet sur le cadavre.
C'était Là-bas si j'y suis, reportage Zoé Varier, Daniel Mermet. Toutes les informations concernant cette émission sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique ce soir, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Yann Chouquet, Christophe Imbert et Pascal Pascariello formaient l'équipe du jour de Là-bas si j'y suis. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.